Audiolib présente L'effondrement de Édouard Louis, lu par Loïc Corbery. Chapitre 1. Je n'ai rien ressenti à l'annonce de la mort de mon frère. Ni tristesse, ni désespoir, ni joie, ni plaisir. J'ai reçu la nouvelle comme on recevrait des informations sur le temps qu'il fait dehors, ou comme on écouterait une personne quelconque nous dérouler le récit de son après-midi au supermarché. Je ne l'avais pas vu depuis presque 10 ans. Je ne voulais plus le voir. Certains jours, ma mère tentait de me faire changer d'avis, d'une voix hésitante, comme si elle avait eu peur de me froisser ou de créer un conflit entre elle et moi. « Tu sais, ton frère, peut-être que tu devrais lui donner une chance. Je crois que ça lui ferait plaisir. Il parle beaucoup de toi. » J'interrompais la conversation brutalement, avec une brutalité que je ne connaissais pas de moi et que je n'aurais jamais osé utiliser avec elle dans un autre contexte. Je disais que je ne voulais plus entendre parler de lui, que ma décision était définitive. La plupart du temps, elle essayait autre chose, une deuxième fois. Mais je lui ai dit, si tu revois ton petit frère, tu ne l'embêtes pas avec le passé et avec ce qui est arrivé entre vous. Tu le laisses tranquille. Et il me l'a juré. Il a juré qu'il ne parlerait pas du passé. Devant mon absence de réponse, elle laissait sa voix s'évanouir dans le silence. Elle baissait les yeux vers le sol avant de passer à un autre sujet avec un enthousiasme trop appuyé, une voix trop sonore. Et je voyais qu'elle parlait de cette manière pour combler la gêne produite par sa tentative de réconciliation ratée et par mon agressivité soudaine. Je suis désolé d'avoir créé cette douleur en elle. Peut-être que j'aurais dû faire un effort de plus, mais peut-être aussi que je ne peux dire ce que je dis maintenant que parce qu'il est trop tard. Peut-être qu'on ne peut être vraiment et authentiquement désolé qu'une fois qu'il est trop tard. Je ne sais pas. J'ai appris sa mort un mardi, quelques minutes après mon réveil. C'était un jour gris et froid. La condensation sur les fenêtres brouillait le ciel au dehors. Je lisais et j'ai vu sur mon téléphone que ma mère m'avait appelé à plusieurs reprises. Il était trop tôt, je n'avais pas envie de parler, mais elle a rappelé, encore une fois. Et alors, j'ai commencé à imaginer que quelque chose de grave, ou en tout cas d'important, se passait. Une impression vague, comme un instinct diffus, sans langage, sans mots. C'est quand le nom de mon petit frère s'est affiché sur l'écran du téléphone que j'ai eu la certitude qu'il s'était produit quelque chose d'anormal. J'ai pensé à un accident, à la mort, et j'avais raison. J'ai décroché, ma mère pleurait, elle disait que l'hôpital s'apprêtait à le débrancher, lui, mon frère. Qu'il n'était vivant que parce qu'une machine le maintenait en vie. La machine faisait battre le cœur d'un corps mort. La veille, il avait été retrouvé par la femme avec qui il avait une relation depuis plusieurs années, effondré sur le sol de son appartement et inconscient, comme un animal à l'agonie, comme une bête. Son corps était au sol parce que son cœur ne battait plus. Quand dans un second temps il a été transporté à l'hôpital, les médecins ont constaté que son foie, lui aussi, avait cessé de fonctionner. Et ses reins. Ses reins étaient trop faibles, incapables de remplir la fonction qu'ils étaient censés occuper. Ses organes se dégradaient depuis plusieurs années déjà, trop vite. Il avait effectué beaucoup d'allers-retours dans les services d'urgence et dans les hôpitaux au cours des mois qui avaient précédé, et maintenant, il n'y avait plus d'espoir. Cet effondrement était celui de trop. Les médecins ont dit à ma mère qu'à cause de l'arrêt cardiaque, son cerveau n'avait plus reçu d'oxygène pendant plusieurs minutes, et qu'il était endommagé, comme s'il s'était éteint à plusieurs endroits, comme les différentes pièces d'un appartement qu'on plongerait dans l'obscurité l'une après l'autre, successivement, ou comme s'il, lui, son cerveau, s'était replié sur lui-même, rétracté, irrémédiablement. Même s'il survivait, disaient les médecins, même s'il survivait, il ne serait plus capable de marcher après son réveil, plus capable de parler. L'homme qui s'adressait à ma mère et lui donnait les explications lui a dit que ça n'était pas terminé, qu'en plus de tous ses problèmes, ils avaient détecté un cancer grave dans son estomac, une grosseur anormale, des cellules contaminées, quelque chose qui, étrangement, n'avait pas été diagnostiqué auparavant. Ma mère au téléphone me disait que le visage de mon frère dans le lit du service de réanimation